Aujourd'hui, l'Église nous met sous les yeux la parabole du pharisien et du publicain. La première leçon la plus évidente, c'est en entrant dans le carême, qui est l'entrée cyclique dans la vie, tout simplement, dans la vie spirituelle, cyclique ou plutôt hélicoïdale, plutôt en spirale, parce qu'il n'y a pas, on recommence pas constamment, on recommence et on monte, à moins qu'on recommence et puis on descende. Enfin, c'est la chose la plus évidente, évidemment, c'est que dans cette conversion, il faut chasser l'orgueil et acquérir l'humilité. Je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'expliquer ça, c'est évident. Mais pourquoi ça? Je voudrais attirer votre attention sur une autre. Regardez quelle est l'attitude, comment se manifeste plus exactement l'orgueil de l'un et l'humilité de l'autre. En quoi ça consiste? L'orgueil du pharisien, c'est un renfermement sur lui-même. Seigneur, je te remercie. Parce que de ne m'avoir fait pas comme les autres, qui eux ne jeûnent pas, qui eux ne font pas le bien, alors que moi, je, toujours, vous voyez cet enfermement sur soi-même, je, c'est l'ego. Cette personne-là, ce pharisien-là, se contente, son horizon s'arrête à ce qu'il a et ce qu'il fait. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et ça, c'est une forme d'auto-amour. Je m'aime, je me contemple, je me compare avec les autres. Je pourrais même dire que ce soit en bien ou en mal, c'est pareil. Mais je me centre sur moi-même. L'attitude du publicain, qui reste au fond, montrant ainsi son humilité parce qu'il se sent indigne. Il porte son indignité. Il assume ce qu'il est. Il reconnaît ce qu'il est. Mais malgré cela, avec hardiesse, comme on dit avant notre Père dans la liturgie, avec hardiesse, avec parésia, la bonne parésia, avec parésia, il se présente devant Dieu. Non, Seigneur, je ne suis pas digne de ce que tu es. Je ne suis pas digne d'être devant toi. Vous voyez que l'attitude est différente. Ce n'est pas lui qu'il contemple. Il sait qui il est. Mais il contemple celui qui est devant lui, qu'il a l'impression qu'il est loin, devant lequel il est indigne d'exister. Et il se situe par rapport à celui-ci, c'est-à-dire par rapport à Dieu. Il se dépasse lui-même, il déchire son égoïsme, il déchire son égoïsme pour s'ouvrir, malgré son indignité, à Dieu, auquel il ne demande rien, sauf d'avoir pitié de lui. Il ne lui demande rien, il ne lui demande pas un don quelconque, mais avec une totale confiance, il s'en remet à lui. Aie pitié de moi, pécheur. Tout simplement. Deux attitudes que j'exprime peut-être mal, il faudrait peut-être donner plus d'exemples, mais j'en ai pas qui me viennent en tête. Deux attitudes complètement opposées, une attitude centrée sur soi-même et l'autre attitude centrée sur Dieu. Ça s'appelle, d'un mot, ou plus de deux mots, ça s'appelle d'un côté l'amour et de l'autre côté le non-amour. D'un côté, vous avez l'amour de l'autre, l'amour de Dieu, qui inclut l'amour des autres, la même humilité vis-à-vis des autres, et le non-amour ou l'auto-amour, s'aimer soi-même, être fermé, être bloqué sur ce que l'on est, sur ce que l'on pense, sur ce que l'on fait, et de se justifier soi-même. Alors que l'amour, c'est de laisser les autres nous justifier, les autres l'autre, pardon, Dieu, nous justifier. Et effectivement, dans les paroles, dans la parole de la parabole, le Seigneur dit, l'un repartit justifié et l'autre non. Maintenant que j'ai essayé de vous montrer ces deux attitudes dans l'évangile, dans cette parabole, je voudrais essayer, fidèlement par ce qu'on dit souvent d'une autre manière ou à d'autres sujets, d'où vient cela? Pourquoi cela? Pourquoi faut-il s'ouvrir à Dieu et s'ouvrir aux autres? Et non pas faire toujours notre volonté, pas nous enfermer sur nous-mêmes. Je n'ai pas noté, parce que je n'ai pas eu le temps, les différents passages de l'Évangile ou des épîtres que nous entendons régulièrement au cours de l'année qui évoquent cela. Mais vous verrez, je reviens à ce qu'on pourrait appeler des marottes, j'espère que ce n'est pas une, mais c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu, justement, est celui qui crée l'union autour de lui, qui crée l'union, et non pas celui qui s'enferme dans une autosuffisance. Le Seigneur est celui qui a renoncé à l'exercice de sa gloire, renoncé à l'exercice de sa gloire divine pour se faire homme avec tous les hommes, pour prendre sur lui notre humanité dans sa déchéance même. Est-ce que cela n'est pas la forme suprême d'amour? Je ne parle pas simplement du moment où il est mort sur la croix, où il a été condamné, ou qu'il a supporté tout ça, mais tout au long de sa vie. Le fait même, nous en parlons souvent dans ces termes-là à Noël, le fait même de s'être incarné, d'être devenu homme, non seulement il est venu parmi nous, mais il nous a, au sens le plus strict du terme, épousés. C'est-à-dire qu'il s'est moulé à nous, de manière à nous remodeler en lui. Et l'attitude d'amour qui nous revient, c'est non seulement de l'imiter, de faire comme lui, en apprenant à aimer les autres à notre manière, à aimer Dieu en premier et nos frères après, mais comme le dit les épîtres et quelques passages de l'évangile de Saint Jean, notamment ce que l'on lit le grand vendredi, l'espèce de grand testament selon Christ, selon Saint Jean, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, et non seulement en imitation du Christ, mais avec une unité qui devrait être tellement grande et qui, malgré notre indignité, l'est, même si on ne le sent pas, avec cette unité tellement grande avec le Christ, nous sommes appelés, et nous le vivons déjà, non seulement à vivre avec lui, mais à vivre en lui. C'est-à-dire que lui a pris sur lui nos épreuves, nos tentations, nos pensées, nos sentiments, pas dans chaque détail, mais dans le mouvement même que Dieu s'abaisse, s'ouvre jusqu'à prendre jusqu'à devenir ce qu'est sa créature. Avouez que ça c'est inouï. Et donc cet échange de nature fait qu'il nous est possible et souhaitable, et c'est l'attitude humble, mais c'est l'attitude que manifeste le publicain de la parabole. Il est possible de vivre des sentiments, si je puis dire, de l'attitude du Christ lui-même. Dans les épîtres de Saint Paul, À plusieurs reprises, il est dit que c'est la foi. Les traductions sont subtiles. On voit souvent dans la plupart de nos traductions françaises, c'est la foi en Christ qui nous sauve. Je pense qu'il y a une erreur. C'est la foi du Christ. Alors on veut, parce que c'est plus facile, croire que c'est la foi du Christ, la foi de reconnaître que le Christ est fils de Dieu, incarné, mort et ressuscité, et tout ça, que ce soit ça qui nous sauve. C'est déjà quelque chose. Mais les textes vont certainement plus loin. C'est la foi même du Christ qui nous sauve. C'est-à-dire que l'attitude du Christ qui fait le lien entre son Père et l'Esprit Saint et nous, par son incarnation, cette foi qu'il a manifesté à l'égard de son Père, notamment au jardin de Gethsémani, où il se sentait abandonné jusque sur la croix, et où il remet son esprit à Dieu, c'est cet esprit-là, cette foi du Christ qui nous sauve, et non pas notre foi à nous. Par contre, notre foi à nous est une participation, ou peut être une participation à la foi du Christ. Pas la foi en Christ, mais la foi du Christ lui-même. Et si ceci est vrai, et si je vous le dis, évidemment, c'est que je crois que c'est vrai, mais si on comprend un peu la profondeur d'une telle révélation, ça implique évidemment qu'on crée autour de soi une harmonie d'amour. Pas d'un amour sentimental, mais d'un amour plus profond encore, cet amour avec lequel il nous est même possible d'aimer ceux qui nous persécutent ou d'aimer ceux qui sont, qu'on peut appeler nos ennemis ou nos adversaires. Dans le Saint Jean, dans l'Évangile, et vous avez la phrase qui est écrite sur le phylactère, sur le livre, que le Christ de l'iconostase de notre chapelle porte dans ses mains. Père, je veux que là où je suis, il soit aussi avec. Et avant, dans l'Évangile, on peut pas citer tout sur ce livre-là, dans l'Évangile, le Christ dit, Père, que tout soit un, comme toi en moi, et moi en toi, eux en moi. C'est-à-dire que l'amour dont nous parlons, cet amour est une volonté d'union. Pas un amour sentimental, je vous aime. On dit ça à son amoureux ou à son amoureuse, ou on dit ça à ses enfants ou à son mari ou à sa femme. Mais ce n'est pas de cet amour-là. Même les personnes ont le droit à un autre amour, mais c'est cet amour d'un don de soi, d'un dépassement de soi pour la reconnaissance de ce qu'est l'autre. D'abord de qui est Dieu, de ce qu'est Dieu, et ensuite de ce que sont les hommes. Et c'est à ce niveau-là que l'on doit apprendre si on veut véritablement être sauvé, parce que en cela consiste le salut. On doit apprendre à créer une harmonie avec Dieu et avec tous ceux qui nous entourent, notre prochain d'abord, mes prochains tout de suite, c'est vous cinq d'abord, vous 50 autres, et après les gens qui sont dehors. Mais en ce moment-là, vous êtes mon prochain. Mais en tant que prochain que vous êtes par rapport à moi, vous représentez, non seulement vous représentez, mais vous êtes une manifestation du reste du corps du Christ. Et si j'arrive à vous aimer, vous 50 ici, c'est l'ensemble des hommes que j'aime aussi, et je dépasse humblement, malgré mes faiblesses, malgré mes indélicatesses, malgré mes, mes péchés connus ou inconnus, je dépasse cette limite de moi-même et j'accède avec le Christ à cet amour universel qui est la manifestation de l'amour que le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont ensemble. Le Père aime le Fils et le Saint-Esprit, le Fils aime le Père et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit aime le Père et le Fils, aimer, pas d'une manière sentimentale, mais ça veut dire qu'ils font la volonté, il faut volontairement, en renonçant à leur volonté propre, la volonté des deux autres ensemble. Et si ceci se réalise entre les trois personnes de la Trinité, nous, l'humanité, nous sommes une humanité unique, avec des milliards d'hommes, pas simplement trois. Et cette communion, à l'image de la Sainte Trinité, peut et doit se réaliser de notre vivant maintenant. C'est la raison pour laquelle nous apprenons, d'une manière ou d'une autre, nous apprenons l'obéissance, nous apprenons le renoncement à sa volonté propre, que ce soit dans l'obéissance monastique, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans la vie professionnelle, dans tous les secteurs. Nous apprenons à renoncer à notre volonté propre, même quand c'est injuste, quand on considère qu'humainement parlant c'est injuste, de manière à créer cette harmonie-là. Et c'est l'attitude, là je vous l'explique d'une manière un peu avec difficulté d'abord, et puis d'une manière un peu cérébrale, du fond du cœur, c'est cela que manifestait le publicain, alors que le pharisien, au contraire, lui, se fiait au respect de loi pour se justifier en disant, moi, je fais ça, 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 je fais tout bien. Mais sans aucun amour, et ça, il ne peut pas être projeté. Il ne peut pas entrer dans cette harmonie amoureuse entre les membres du corps de Christ, entre les membres de l'humanité, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi aussi, je ne vais pas vous donner tous les exemples, tous les cas qui peuvent se présenter, évidemment. Mais voilà pourquoi il est important d'obéir à ses supérieurs, à sa hiérarchie, d'obéir à ses parents, de s'obéir entre nous. Ce n'est pas une question de discipline, c'est une question véritablement d'accomplir l'évangile, c'est-à-dire de vivre la vie du Christ. Non pas, j'insiste beaucoup là-dessus, non pas de vivre comme le Christ, mais de vivre du Christ. Vivre comme lui, le Seigneur n'a pas été simplement un modèle. S'il s'est incarné, c'est qu'il est devenu ce que nous sommes pour que nous devenions ce qu'il est. Pas comme il est, mais ce qu'il est. Et ce type d'obéissance, je parlais d'harmonie tout à l'heure, parce que ce n'est pas que l'obéissance, mais ça implique cela. Le pardon des offenses, le pardon à ceux qui nous persécutent, fait partie de cette forme d'amour. C'est pas agréable, certes, mais ça fait partie de cette attitude, ce pardon ne peut se réaliser en nous que parce que le Christ lui-même nous a pardonné. Et puisqu'il vit en nous, puisque nous le recevons par la communion et la prière, puisqu'il vit en nous, il nous fait aimer les autres de son amour à lui. Par exemple, dans la prière, la vraie prière ne consiste pas à dire, ça c'est ce que je vais vous dire là, est utile pour apprendre à prier. La vraie prière ne consiste pas seulement à dire des prières, comme les prières avant la communion, des paraclésistes, des acathistes, des psaumes, ou n'importe quelle forme de prière. Ça, c'est une expérience de toute l'Église qui, si on rentre dedans, nous apprend comment prier, nous apprend à avoir les dispositions d'esprit qui nous conduisent vers Dieu. Mais dans son essence, dans son essence, la vraie prière, c'est une manifestation de la présence du Christ en nous et de nous en Christ, qui fait que lorsque l'on prie vraiment, mais on ne sait jamais si on prie vraiment, dans la vraie prière, c'est le Christ qui prie en nous, c'est-à-dire le Christ qui en nous aime son Père, aime l'Esprit Saint et aime tous les hommes, et en nous, il aime, et nous, avec lui, nous aimons ceux, CE et CEUX, les personnes que lui-même aime. C'est pas notre. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était la foi du Christ qui nous sauvait, c'est l'amour du Christ aussi qui nous sauve. Et nous devons apprendre à vivre, à aimer de l'amour du Christ même. Et la réception des sacrements, la communion, nous fait recevoir le Christ vivant en nous, de manière à ce que, vivant en nous, nous exprimions les sentiments, l'attitude spirituelle qui est la sienne. Quand on prie les uns pour les autres, que signifie la prière des uns pour les autres? Ça ne veut pas dire que je vais supplier Dieu pour qu'il ait quand même la bonté de faire quelque chose pour un tel ou pour un tel qui n'avait pas l'intention de faire. Si Dieu est véritablement bon, il sait peut-être mieux que moi ce qu'il faut pour le salut de la personne, pour le bien-être de la personne. La vraie prière, c'est nous enfoncer dans cette communion avec le Christ, en vue de l'union avec le Père, par la force du Saint-Esprit, de manière à accompagner par mon attention, par mon effort, par ma supplication, à accompagner ceux pour lesquels je prie, ou celui pour lequel je prie, de manière à ce que mon action intérieure, mon action spirituelle, accompagne et donne à celui pour lequel je prie la force qui lui manquerait pour accomplir ce qu'il a à accomplir. Mais évidemment, je n'ai pas la prétention que ce soit moi, qui que ce soit, qui apporte cela. C'est moi, parce que je suis avec le Christ, qui apporte à cette personne le Christ, la force du Christ qui manquerait à cette personne. C'est vraiment la prière, c'est vraiment cette communion dans la foi et dans l'amour les uns avec les autres, plus qu'une supplication. Seigneur, tu n'y as jamais pensé, mais peut-être que ce serait bien que tu fasses, que tu fasses, que tu donnes telle grâce à telle personne. Cette forme d'amour, elle s'apprend à travers toutes les formes d'ascèse. Par exemple, même socialement parlant, donc purement humainement parlant, il y a un ordre entre les personnes. Respecter cet ordre-là, cette hiérarchie-là, qui est peut-être une hiérarchie à cause de l'âge, à cause des fonctions purement humaines, en soi on est tous égaux. Qu'on soit jeune ou vieux, on est égaux aux yeux de Dieu. Qu'on soit riche ou pauvre, on est égaux. Qu'on soit savant ou pas, on est égaux devant Dieu. Qu'on ait des responsabilités sociales ou qu'on n'en ait pas, on est tous égaux devant Dieu. Donc à ce niveau-là, les hommes sont égaux, certes. Mais puisque nous sommes incarnés dans une société, non seulement dans la société des membres du corps du Christ, mais dans une société humaine. Et cette société humaine, pour qu'elle fonctionne, et qu'elle fonctionne à l'image de la vie trinitaire, il faut qu'il y ait une hiérarchie. En Dieu, il y a une hiérarchie. Le Père, puis le Fils, puis le Saint-Esprit, bien qu'ils soient égaux en honneur et en gloire. Et, Et vous voyez bien que dans l'évangile, le Christ dit qu'il obéit à son Père. On n'est pas entendu dire le contraire, voire l'inverse, je veux dire. Et le Seigneur nous dit, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Donc il y a une hiérarchie. Eh bien, entre nous, il y a aussi une hiérarchie. Il est indispensable, c'est pas qu'il est simplement normal, qu'il soit simplement normal, mais il est dit indispensable que, par exemple, des personnes plus âgées passent devant les personnes plus jeunes. Tout simplement parce que c'est une marque d'amour. Évidemment, si les personnes plus âgées en profitent pour dominer, mater, écraser, humilier les plus jeunes, c'est plus une forme d'amour. Mais dans un monastère, par exemple, il y a une hiérarchie entre les moines et les moniales. D'abord, il y a le ou la supérieure, mais dans l'ordre, après, dans l'ordre de communion, dans l'ordre dans la hiérarchie d'un monastère, ce n'est pas l'âge physique qui compte, c'est l'ordre dans lequel on a fait la profession monastique. Et il se peut que quelqu'un de 30 ans soit supérieur, passe avant quelqu'un qui en a 90. Parce que celui qui est de 90 n'aurait que 10 ans de vie monastique, alors que celui de 30 ans aurait déjà 15. Vous comprenez? Et ça, il faut le prendre aussi avec reconnaissance. Comme on est des hommes, on peut exagérer. On peut avoir le sens de la domination, ce qui est un péché, et écraser les autres. Dieu a fait que par quelque raison que ce soit, le père Élie est votre pasteur et votre père spirituel. Il essaie de le faire humblement, mais il se peut aussi qu'il le fasse avec orgueil et domination et qu'il vous humilie. Et ça, c'est pas bon, mais ça vous empêche pas, vous, de lui obéir quand même. Non pas par discipline, mais parce que vous reconnaissez en lui, malgré ses faiblesses, vous reconnaissez en lui la présence de Dieu. Et comme vous aimez Dieu, votre manière de manifester votre amour pour Dieu, c'est de le reporter sur celui qui en est visiblement le représentant. C'est pas un appel, c'est pas une supplication à votre amour et tout ça. C'est un exemple pour éviter d'en prendre d'autres plus délicats. Et tout ça procède du même mouvement. C'est toujours découvrir l'amour de Dieu, non pas pour faire pareil, mais pour acquérir cet amour de Dieu et le reproduire. Le manifester l'amour lui-même de Dieu et le manifester aux autres. Et en quelque sorte, vous voyez que ça peut se vivre très humblement, puisque c'était l'attitude dans la parabole que le Seigneur nous donne du publicain. Et l'arrivée dans le carême, cet évangile avant le carême ne nous invite pas simplement à chasser notre orgueil et ça, il nous invite à entrer dans une conversion beaucoup plus radicale, de cette conversion d'un abandon de soi pour une incarnation en l'autre. Je ne sais pas si l'expression est tout à fait juste, mais pour une dépossession de soi pour entrer dans la communion avec Dieu. Et c'est là la véritable conversion. Ce n'est pas simplement de faire un effort pendant 50 jours en ne mangeant pas ceci, ne mangeant pas cela, en se privant. À la limite, si vous apprenez véritablement à aimer de cette charité-là, mangez, buvez tout ce que vous voulez, c'est sans aucune importance. Je ne vous invite pas à ne pas faire le carême, c'est pas ça que je veux dire. À notre stade, c'est utile de le faire pour apprendre ça. Mais en soi, c'est pas ça du tout qui nous sauve. Notre jeûne, notre ascèse, notre prière ne sont qu'une manière, une méthode ou la méthode expérimenté depuis des siècles, bien avant le Christ déjà, pour une méthode pour apprendre ce qu'est le véritable amour et le don à l'autre. Parce que si on n'apprend pas à se priver de certaines nourritures pendant le carême, on ne peut pas apprendre à renoncer à pas me fâcher alors que Étienne est en train de me marcher sur les pieds, que Denis sent mauvais et que lui il est en train de se moquer de moi. C'est pas vrai. Vous comprenez, tout ça, ça se tient. Mais en soi, c'est pas le jeûne qui nous sauve. C'est pas la prière non plus. Enfin, c'est pas les prières qui nous sauvent. C'est l'amour que l'on a. Et ça, c'est encore la vie du Christ. Le Christ ne nous a pas sauvés par sa souffrance. Il nous a sauvés par l'amour qu'il nous a montré dans ses tentations et dans ses souffrances. C'est l'amour du Christ qui nous sauve et non pas la souffrance en elle-même. Sa souffrance a été l'occasion de manifester son amour quand même, sa patience, son abnégation. Mais c'est pas en soi, c'est pas ça qui nous sauve.